d'un homme qui n'est plus qu'un aventurier. Il le croit, l'insensé. Et son dernier acte de démence achève de le faire connaître.
Le maréchal Ney, le brave des braves, qui avait rallié la cause des Bourbons, promet à Louis XVIII d'arrêter Napoléon en route vers Paris et de le ramener dans une cage de fer.
Je fais mon affaire de Bonaparte. Nous allons attaquer la bête fauve. C'est bien heureux que l'homme de l'île d'Elbe ait tenté sa folle entreprise, car ce sera le dernier acte de sa tragédie. Le dénouement de la Napoléonade. Je prendrai un fusil, je tirerai le premier coup et tout le monde marchera.
Louis XVIII dira de Ney :
voilà un brave homme qui va faire de la bonne besogne. Mais pour Dieu, quel enthousiasme ! Nous ne lui en demandions pas tant.
Cette fameuse promesse de Ney faite à Louis XVIII de ramener Napoléon dans une cage de fer, qui finalement n'est pas tenue par Ney, qui sera considéré et tenu pour le traître principal de ce fameux vol de l'aigle de mars 1815 et qui finira fusillé à l'observatoire en décembre 1815 après avoir été jugé et condamné à mort par la Chambre des Pairs réunie en haute cour de justice. Donc il y a cette fameuse phrase de Ney, on ne peut arrêter la mer avec la paume de la main, hein. On en parlera jusqu'au Kamchatka, disait Ney également, qui finalement essaye de persuader ses soldats de marcher sur Napoléon, on n'est pas suivi par eux, et pour ne pas perdre la face, finit par suivre ses soldats qui eux aussi se jettent dans les bras de Napoléon. Ça se passe comme ça au fond, hein. La frustration dans l'armée est telle, les souvenirs, et c'est donné dans un certain nombre de mémoires d'officiers, tout ce conflit entre les souvenirs, les sentiments, les souvenirs de gloire et de bataille d'un côté, et les devoirs de l'autre, les serments prêté à Louis XVIII, après l'abdication de Napoléon par les officiers. Thiébault le dit très bien dans ses mémoires lorsqu'il est parmi les derniers dépêchés sur la route de Fontainebleau pour arrêter Napoléon entre Paris et Fontainebleau le 19 mars, et qu'il s'aperçoit que entre les souvenirs et les serments, entre les souvenirs et les devoirs, sa conscience a tranché, ce sont les souvenirs qui l'emportent.
Les souvenirs de gloire ont-ils submergé le maréchal Ney ? Toujours est-il qu'il rejoint Napoléon dans son vol de l'aigle. Sa défection à la cause des Bourbons fait l'effet d'une bombe. Ney dit à ses hommes
« Soldats, la cause des Bourbons est à jamais perdue. Les temps ne sont plus où l'on gouvernait la nation avec de ridicules préjugés et où les droits du peuple étaient méconnus et étouffés. La dynastie légitime que la nation a adoptée va remonter sur le trône. C'est à l'empereur Napoléon seul qu'il appartient de régner sur notre pays. Soldats, je vous ai souvent mené à la victoire. Maintenant, je vous mène à la phalange immortelle que l'empereur conduit à Paris. Vive l'empereur ! »
Rien n'empêchera dorénavant l'aigle d'atteindre les portes de Paris. Benjamin Constant, chef de l'opposition libérale sous le consulat de Napoléon Bonaparte, ne cache pas son désarroi.
Après avoir versé tous les fléaux sur notre patrie, il a quitté le sol de France. Qui n'eût pensé qu'il le quittait pour toujours ? Tout à coup, il se présente et promet encore aux Français la liberté, la victoire, la paix. Auteur de la constitution la plus tyrannique qui ait régi la France, il parle aujourd'hui de liberté. Mais c'est lui qui, durant 14 ans, a miné et détruit la liberté. Il a attiré sur la France l'humiliation d'être envahi. Il a perdu les conquêtes que nous avions faites avant lui. Il promet la paix. Et son seul nom est un signal de guerre.
Louis XVIII est contraint de partir. Ou plutôt de fuir, diront certains. Il déclare
« J'ai travaillé au bonheur de mon peuple. J'ai recueilli, je recueille tous les jours les marques les plus touchantes de son amour. Pourrais-je, à 60 ans, mieux terminer ma carrière qu'en mourant pour sa défense ? Je ne crains donc rien pour moi, mais je crains pour la France. Celui qui vient allumer parmi nous les torches de la guerre civile y apporte aussi le fléau de la guerre étrangère. Il vient remettre notre patrie sous son joug de fer. »
Entre le 19, au moment où Louis XVIII part, et le 20 mars, Napoléon arrive au soir du 20 mars.
Charles-Éloi Vial.
Il y a une sorte de vide, c'est-à-dire qu'on... Vacances du pouvoir, les Tuileries sont vides, il n'y a plus de souverain sur le trône. Et c'est très curieux parce que Paris est divisé entre les partisans, les admirateurs de l'empereur, surtout qui sont assez nombreux, surtout dans les faubourgs populaires, et les quartiers un peu plus aisée, où l'on se demande ce qui va se passer. Est-ce que Paris va être plongé dans la guerre civile? Est-ce qu'il va y avoir des combats, des confrontations? Donc il y a une vraie crainte de la violence, parce que Paris a déjà été occupé l'année précédente. Paris se souvient aussi de la terreur à l'époque de la Révolution, donc Paris n'a aucune envie de voir le sang couler. Donc il y a une forme d'incertitude, une forme d'attentisme. On se demande ce qui va se passer, et finalement, on est assez content de voir Napoléon arriver, parce que Napoléon, c'est l'ordre, c'est la peur du vide. La nature a horreur du vide, et là, le vide est rempli, puisque un souverain va arriver aux Tuileries, reprendre le contrôle de la police, reprendre le contrôle de la justice, donc les désordres ne sont plus à craindre. Donc c'est quand même assez rassurant de voir qu'un souverain revient. On se rend bien compte dans cette journée du 20 mars de cette latence, de cette incertitude. Louis XVIII a oublié le prince de Condé, par exemple, qui était resté dans son appartement aux Tuileries et qui part en catastrophe complètement terrifié. Il y a toujours quelques domestiques qui chargent des bagages en catastrophe, avec peut-être une malle avec ses fameuses pantoufles dont il rêvait tant. On voit qu'il y a des tentations de piller le palais, donc la garde nationale se rassemble, mais au nom de qui elle se rassemble? Au nom du roi ou au nom de l'empereur? Donc finalement, il y a une sorte de passage de pouvoir qui s'opère dans l'après-midi entre les partisans de l'empereur qui vont remplacer ceux du roi, qui vont s'éclipser, s'effacer, et en réalité le personnel impérial des Tuileries reprend sa place, reprend ses uniformes, et l'anecdote d'ailleurs est très connue, les courtisans de l'empereur reprennent leur poste, et quelques-unes des dames de la cour commencent à découdre les fleurs de lys des tapis, parce qu'en dessous il y avait encore les aigles.
Le général baron Thiébault, fervent de l'Empire, est présent lors de l'arrivée de Napoléon aux Tuileries. Il décrit dans ses mémoires ce qu'il a vu et ressenti lors de ce moment incroyablement chargé en émotions.
Je crus assister à la résurrection du Christ. Il y avait à peine 3 heures que, soldat des Bourbons, j'avais encore mes canons braqués contre lui. Mais maintenant, il me semblait que j'étais redevenu français. Et rien n'égalait les transports et les cris avec lesquels j'essayais de lui manifester la part que je prenais à l'hommage qui lui était rendu.
Rien n'a ressemblé à ce quart d'heure, dira Victor Hugo des 100 jours dans Les Misérables.
Emmanuel de Warresquiel.
Ce double chassé-croisé tout à fait extraordinaire et cette arrivée de Napoléon qui gravit quasiment yeux fermés, tâtonnant, entouré des soldats qui l'acclament, précédé je crois par Caulaincourt et qui ne comprend presque pas ce qui lui arrive lorsqu'il gravit les marches des Tuileries dans la soirée du 20 mars 1815. C'est un phénomène totalement bouleversant.
L'ambiance qui règne aux Tuileries est indescriptible. Lavalette, le directeur général des postes sous le Premier Empire, présent lui aussi, explose de joie.
Un cri de vive l'empereur, mais un cri à fendre les voûtes. Un cri formidable se fit entendre. C'était celui des officiers à demi-solde, pressés, étouffés dans le vestibule et remplissant l'escalier jusqu'au comble. L'empereur était vêtu de sa célèbre redingote grise. Je m'avançai vers lui, le contemplant avec une émotion profonde, les yeux baignés de larmes, et répétant dans mon délire « Quoi ? C'est vous ? C'est vous ? C'est enfin vous ?»
Il est certain, au bout du bouc, au-delà du fait que Napoléon arrive à Paris dans la soirée du 20 mars 1815, ce vol de l'aigle, l'aigle avec les couleurs nationales, flottera de clocher en clocher jusqu'autour de Notre-Dame, participe ô combien pleinement à la légende napoléonienne, et qu'elle est un élément constitutif et essentiel de la légende napoléonienne, telle qu'elle sera restituée par Lascaz à travers le mémorial publié en 1823. C'est tout à fait essentiel. L'envahissement d'un seul homme, dira Benjamin Constant. Et en même temps, ce vol de l'aigle, avec les décrets qui sont pris notamment à Lyon le 10 mars 1815, c'est le retour de la Révolution. Par les discours mêmes qui sont prononcés par Napoléon au fur et à mesure de ce vol de l'aigle, qui rappellent, je dirais, tous les vieux pensifs de la Révolution. Les Bourbons, les fourgons de l'étranger, les traîtres, les ennemis et les non-patriotes, stigmatisant le clergé, la noblesse. C'est une reprise des discours de la terreur de 1793.
Je viens avec une poignée de braves parce que je compte sur le peuple et sur vous. Le trône des Bourbons est illégitime, puisqu'il n'a pas été élevé par la nation. Il est contraire à la volonté nationale, puisqu'il est contraire aux intérêts de notre pays, et qu'il n'existe que dans l'intérêt de quelques familles. Demandez à vos pères. Interrogez tous ces habitants qui, des environs, arrivent ici. Vous apprendrez de leur propre bouche la véritable situation des choses. Ils sont menacés du retour de la dîme, des privilèges, des droits féodaux et de tous les abus dont vos succès les avaient délivrés.
Passé l'euphorie du retour au palais des Tuileries, le lendemain, Napoléon constate que la France a changé pendant son absence. Les choses vont être plus compliquées que prévu.
Quand il arrive à Paris, il faut le temps qu'effectivement les choses reviennent en place. Bon, il retrouve quand même son administration, il retrouve même ses domestiques aux Tuileries, etc. Il retrouve son bureau, en fait, presque ses habitudes. Pas grand-chose n'avait bougé, mais enfin quand même, la France a évolué en un an. Louis XVIII a eu l'intelligence justement de préserver les institutions napoléoniennes. Il a donné quelques libertés supplémentaires. Donc en fait, même si l'armée lui est très hostile, parce que, enfin, surtout au Bourbon en général, hein, son frère, le futur Charles X, le comte d'Artois, mais la France a quand même évolué, a goûté à la paix aussi, et Napoléon, même s'il ne veut pas de la guerre, c'est quand même la guerre en fait qui retourne, parce que les puissances alliées, quand il a débarqué, eh bien aussitôt elles étaient déjà réunies en fait, parce qu'elles se trouvaient à Vienne, en fait aussitôt se sont concertées et ont signé le traité de la Quadruple Alliance. Un traité lui aussi unique, un peu unique dans l'histoire mondiale, parce qu'en fait c'est un traité non pas dirigé contre une puissance ou un pays, c'est dirigé contre Napoléon seul. Ce traité du 25 mars 1815, en fait, dit que les puissances alliées, qui étaient la Russie, la Prusse, la Russie et l'Autriche, ne baisseront les armes qu'une fois Napoléon neutralisé. Le terme n'est pas précisé, et il ne l'appelle pas Napoléon, il l'appelle le perturbateur du repos du monde. C'est dire qu'en fait, Napoléon trouble leur sommeil depuis très longtemps, et qu'en fait, ils ont envie de se rendormir tranquille sur leur trône, et Napoléon, effectivement, est celui qui dérange. Il est l'incarnation d'une France malgré tout révolutionnaire, et donc pour eux il faut absolument clore ce chapitre. Et en fait le 25 mars 1815, avant même qu'il sache qu'il ait repris toutes les rênes du pouvoir, son trône en entier, en fait il lui déclare la guerre lui seul, et ils ne s'arrêteront qu'une fois Napoléon hors d'état de nuire, hein, c'est ce qu'ils disent. Et en fait ça, Napoléon l'a mesuré, mais penser peut-être pouvoir quand même arriver à, comme 10 ans avant, essayer de séduire une puissance l'une contre l'autre, enfin jouer le jeu européen. Mais en fait, le jeu européen est totalement fermé et n'a qu'une obsession. Et d'ailleurs, n'est ligué que par cela, hein, ce qu'on appelle la Sainte Alliance. En fait, la Sainte Alliance, c'est cette réunion de pays, mais contre Napoléon, contre une France révolutionnaire qu'ils ne veulent plus voir ou à laquelle ils ne veulent plus penser, qu'il faut absolument oublier. Et pour reprendre le cours des choses d'avant 1789, même, hein, dans une large mesure, même si certaines choses ont évolué et qu'ils acceptent, mais voilà, c'est un point de vue, ça compte beaucoup pour la suite, parce qu'en fait, Napoléon n'a pas mesuré cette hostilité, et il va tenter des ouvertures, il va tenter un certain nombre de choses, mais en fait, il sait qu'il lui faut repartir en guerre, pour une guerre contre toutes les puissances, il est à un contre tous.
Mais si la France a changé, Napoléon aussi. Ce n'est plus l'homme d'Austerlitz. Jean-Antoine Chaptal, qui devient ministre d'État pendant les 100 jours, dit de lui.
Les personnes qui l'approchaient de plus près remarquèrent le très grand changement opéré dans la constitution physique et morale de Napoléon. La fatigue du cheval lui devint insupportable. Le sommeil, qu'il avait maîtrisé jusque-là, le maîtrisa à son tour. Lui seul ne s'aperçut pas de ces changements. Il voulut réparer sa fortune sans avoir les mêmes moyens qu'il avait eus pour la fonder.
Napoléon n'est pas un seul bloc.
Thierry Lenz.
Ça n'est pas un personnage unique. Hein. Il a connu à la fois les outrages du temps, sur le plan de son énergie, sur le plan de ses idées. Et puis, il est monté tellement haut à un moment donné que, une fois qu'on est très très haut, on ne voit plus tellement ce qui se passe en bas. Et c'est un peu ce qui se passe au début des 100 jours. C'est-à-dire que la remontée vers Paris, c'est quelque chose d'assez miraculeux. Ça se passe quand même plutôt bien. Il est acclamé par les populations sur son chemin, les troupes le rejoignent. Donc, probablement a-t-il, à ce moment-là, des espoirs qu'il place un tout petit peu haut. Mais dès le 21 mars, c'est-à-dire le lendemain de son retour à Paris, le retour sur Terre est assez fracassant parce que personne ne veut entrer dans son gouvernement. Et puis surtout, il apprend très très vite que les puissances réunies à Vienne ont décidé de lui faire une guerre quasiment personnelle. Napoléon prend conscience de la difficulté intérieure qui l'attend, d'abord par la froideur de tous ceux qui l'avaient entouré pendant les 14 premières années de son règne, qui se font vraiment prier pour entrer dans son gouvernement. Même un homme comme Marais, l'ancien secrétaire d'État impérial, refuse au départ de reprendre son ministère, alors que Marais est véritablement le napoléonolâtre de service. Et donc Napoléon se rend bien compte qu'il va lui falloir prouver des choses, ce qui ne lui était pas arrivé depuis assez longtemps. Il va falloir donner des gages, ce qu'il ne sait probablement pas faire. Et c'est pourquoi, probablement, même s'il aurait bien aimé avoir la paix avec l'Europe, c'est pourquoi la continuation de la guerre ou la reprise de la guerre va beaucoup lui servir pour mettre un petit peu d'huile dans le jeu, si l'on veut, et lui permettre de revenir sur la scène politique en ayant fait une petite sortie sur le terrain militaire.
Malheureusement pour la France, l'Empire, ou plutôt l'Empereur, est donc condamné par le tribunal des puissances alliées. Ce sera la guerre à mort. La prochaine campagne de Belgique, qui va se terminer par la célèbre bataille de Waterloo, oblige Napoléon à lever une nouvelle grande armée dans un temps record.
Son activité, même s'il libéralise son régime, même s'il politiquement il est très présent, c'est reconstituer une armée capable d'affronter l'Europe. Hein. Donc ce n'est pas un mince pari, il n'a que quelques semaines, parce que comme toujours, là, Napoléon encore veut prendre l'initiative et n'a pas du tout l'intention de se laisser faire et d'attendre. Et donc il veut partir en guerre le premier, mais pour ça il faut faire repartir une machine de guerre qui s'était arrêtée et qui n'avait qu'une envie, c'est s'arrêter. Donc ça va être difficile, mais néanmoins il va parvenir à remonter une armée pour partir vers la Belgique et la campagne de Belgique.
Soldats, nous avons des marches forcées à faire, des batailles à livrer, des périls à courir. Mais avec de la constance, la victoire sera à nous. Les droits, l'honneur et le bonheur de la patrie seront reconquis. Pour tout Français qui a du cœur, le moment est arrivé de vaincre ou de périr.
Première grande difficulté de Napoléon, c'est recréer une armée.
Thierry Lenz.
Louis XVIII a licencié, on va dire, la moitié de l'armée. L'armée française a été largement désarmée après sa défaite. Elle a perdu son artillerie, elle a perdu même ses armes légères. La conscription n'existe plus. Or, Napoléon s'est beaucoup servi de la conscription pour augmenter ses effectifs. Il va être obligé de trouver un biais juridique un petit peu tordu pour pouvoir rappeler quelques jeunes sous les drapeaux. Donc il y a un problème d'équipement, un problème d'effectifs, probablement un problème de motivation chez les cadres supérieurs. Un peu moins chez les officiers, on va dire, subalternes, mais il se trouve vraiment confronté à des difficultés énormes. Et d'ailleurs, au moment où il va prendre l'offensive en Belgique, il emmène avec lui les seules troupes qui sont combattantes. Toutes les autres troupes, les petites armées qu'il a mises aux frontières, l'armée qu'il a envoyée en Vendée, sont composées pour moitié de gardes nationaux qui parfois partent sans fusil. On a dans la correspondance de Napoléon une lettre à Fouché dans laquelle il lui demande de fabriquer des piques. Ça veut dire qu'on n'a pas de fusil pour armer les fédérés ou la garde nationale à Paris. Donc c'est un coup de poker qui consiste pour Napoléon à tenter une sortie dans la grande place assiégée qu'est la France à ce moment-là, et en se dirigeant vers d'abord les armées les plus faibles qui vont lui être opposées, celles de Blücher et celles de Wellington, avec comme objectif, moi j'en suis convaincu, la prise de Bruxelles, qui aurait signifié deux choses. D'abord, un, l'armée anglaise avait été battue et l'Angleterre n'a qu'une seule armée, donc l'Angleterre n'aurait plus eu d'armée. Et puis, une fois arrivé à Bruxelles, Napoléon aurait pu éventuellement annoncer que, voilà, ça y est, la France rentrait dans ses limites naturelles et que désormais il n'avait plus d'ambition territoriale. C'était sa seule chance de parvenir à entrer en négociation avec ses adversaires. Moi, je pense tout de même que jamais les adversaires n'auraient accepté de négocier. Ils avaient à peu près entre 600 et 1 million d'hommes qui marchaient sur la France, pratiquement pas d'armée à l'Est pour les arrêter, donc ça aurait été un remake de la campagne de France. Et au fond, par rapport aux conséquences que cela aurait pu avoir, alors je sais que je vais m'attirer les foudres des napoléonistes, il est aussi bien que cette aventure-là se soit terminée à Waterloo.
Napoléon va donc jouer le tout pour le tout. il va une fois encore faire appel à une ancienne alliée qu'il a si souvent couvert de succès pendant toutes ses campagnes, la vitesse. Pour contraindre les alliés à négocier, il veut obtenir une victoire décisive en Belgique en battant les Anglais et les Prussiens chacun à leur tour. Il veut comme cela les empêcher de se rassembler. Personne ne pense qu'il prendra l'offensive, pas même Wellington, son futur ennemi, qui est déjà à Bruxelles.
Il n'y a rien de neuf ici. Les rapports nous indiquent que Bonaparte va rejoindre son armée et nous attaquer. Mais on m'a signalé le 10 qu'il se trouverait toujours à Paris. Et à en juger par son discours devant la législature, son départ n'a rien d'imminent. J'estime que nous sommes désormais trop forts pour celui-ci.
Napoléon quitte Paris le 12 juin 1815, convaincu qu'il reviendra bientôt victorieux. Il ne se doute pas qu'il se dirige vers son destin tragique.
Nous quittâmes Paris à la pointe de l'aube. J'allais rejoindre mon armée. 120 000 braves à la frontière belge. Ensemble, nous allions faire route vers le royaume des Pays-Bas. Nous partions affronter les ennemis coalisés contre l'Empire, et le premier serait cet Irlandais vaniteux, ce Wellington. Je partais avec la rage de vaincre au ventre. Ce sera ma plus belle campagne, la bataille des batailles, mon chef-d'œuvre. La bataille qui va se donner sauvera la France et sera célèbre dans les annales du monde. Je ferai jouer ma nombreuse artillerie. Je ferai donner ma cavalerie.
En apprenant l'entrée des troupes napoléoniennes sur le territoire belge, Wellington est abasourdi.
Mon Dieu ! Napoléon m'a roulé ! Il a 24 heures d'avance sur moi !
Il se surestime et sous-estime ses adversaires.
Pierre Brandin.
En fait, il est persuadé que lui seul suffit pour faire la différence. En fait, il l'a d'ailleurs dit, 50 000 hommes et moi, ça fait 150 000. Là, il se trompe un peu parce que ses adversaires ont appris et il s'est un petit peu enfermé dans sa propre légende et il pense qu'à lui tout seul, finalement, il arrangera tout. Il faut dire que dans le passé, les circonstances l'ont servi. Chaque fois qu'il a été en difficulté, finalement, un miracle est intervenu et donc à chaque fois, ce qu'il appelle la fortune, comprendre la chance, l'a sauvé. D'ailleurs, Napoléon était quelqu'un qui croyait beaucoup à cela, à la chance. Il disait toujours, quand on lui présentait un général, quand on lui vantait ses qualités, il disait toujours « Mais ce général a-t-il de la chance ?» Voilà, donc c'est quelqu'un qui croit